France Musique. Prima la musica. Par Stéphane Goldet. Bonjour à vous, c'est le troisième de nos échanges franco-allemands avec Richard Strauss, une œuvre instrumentale, puis une pièce vocale pour commencer, puis Gabriel Fauré, une pièce vocale et une œuvre instrumentale pour parcourir ce programme de l'heure que nous passons ensemble. Avec pour commencer un poème symphonique de Strauss, mais pas le plus connu, pas le plus joué, pas le plus représenté, Don Juan. Et pourtant, c'est pas le premier parce qu'il y a eu Aus Italien qui est partiellement raté. Alors là, pour le coup, qu'on met jamais dans les programmes de concert. Enfin, c'est le premier, c'est son coup d'essai, c'est son coup de maître en fait. C'est le premier poème symphonique court, si vous voulez, d'un seul tenant, plus court qu'une symphonie classique, hein, puisqu'il dure moins de 20 minutes. Il y a quelque chose de très réussi et qui est vraiment complètement nouveau. C'est la synthèse, si vous voulez, entre équilibre et brio. Quelque chose, il y a eu des magnifiques orchestrations. Je pense à celle de Berlioz, par exemple, dont celle de Richard Strauss s'inspire. Hein. Mais à ce niveau de concentration et de côté compact, avec donc sur un peu plus d'un quart d'heure, la pièce que vous allez entendre dure 17 minutes, un orchestre à la fois transparent et puissant tout le temps, ça c'est complètement nouveau et ça a eu un succès fou. Et je trouve que cette pièce, Don Juan, a un chef d'orchestre de prédilection qui l'a mis à son répertoire très tôt dans l'histoire du micro-sillon. À vrai dire, je vais vous proposer le premier enregistrement de Herbert von Karajan, celui de 1952. Si vous allez sur notre site, le site de l'émission Prima la Musica, vous pouvez trouver un enregistrement de Herbert von Karajan dirigeant cette pièce à la fin de sa vie, en 1984. Il y a quelque chose d'absolument unique chez ce chef, non qu'il joue cette pièce plus vite, mais il la joue, comment dire, c'est un autoportrait finalement, ce Don Juan, le personnage, ce personnage qu'a été Karajan toute sa vie, c'est-à-dire cette espèce de playboy comme ça, pressé, formidablement professionnel, mais qui voulait donner une image de lui-même sautant d'un avion à réaction à un autre avion à réaction, en le pilotant s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui lui va formidablement bien et qui se s'entend de la première à la dernière note des interprétations qu'il a données. Évidemment, plus il était jeune, plus c'était musclé. Voici l'orchestre Philharmonia sous la direction d'Herbert von Karajan, qui avait à peu près 45 ans lors de ce premier enregistrement. Nous sommes en 1952 et c'est Don Juan de Richard Strauss. Don Juan de Richard Strauss, l'orchestre Philharmonia, direction Herbert von Karajan, un enregistrement qui date de 3 siècles et demi. Il a été fait en 1952, c'est le premier enregistrement de Karajan de cet ouvrage, qu'il a enregistré plusieurs fois et qui est en ligne une fois encore sur le site de notre émission, enregistré en 1984, je crois, à Tokyo, avec la Philharmonie de Berlin. Karajan l'a enregistré, donc, je vous le disais, il y a 3 siècles et demi, c'est-à-dire en 1952, qui est l'an 2, 1952, c'est l'an 2 du micro-sillon. Hein, jusqu'en 1950-51, on enregistrait des 78 tours. Alors évidemment, ça s'entend, mais il y a une fièvre là-dedans. Dans une tension. J'ai un seul regret, enfin, pour ce poème symphonique qui est mon préféré, c'est d'une part, enfin, j'ai deux regrets. D'une part, de ne pas l'entendre assez voir, pas le voir assez figurer sur les programmes des concerts symphoniques, alors que je trouve que c'est vraiment un bijou, et qu'il n'ait pas fait partie du répertoire de Claudio Abbado. Alors maintenant, nous allons entendre, toujours de Richard Strauss, un lied écrit en 1899, dont le titre est italien, Notturno. C'est un lied écrit directement pour voix grave et grand orchestre. Il n'y a pas de version piano de ce lied, qui est sur un poème de Demel. C'est un grand lied qui dure un quart d'heure. Vous en avez le texte et la traduction sur le site de notre émission. Alors pour ceux d'entre vous qui n'allez pas vous précipiter sur le site, parce que vous avez autre chose à faire, je vais vous donner le schéma général de cette vision nocturne. En fait, c'est un fantasme qui va se déployer devant vous. Un ami mort vient jouer avec son violon à celui qui chante. Il n'a plus de voix maintenant, hein, qu'il est mort. Et il vient lui chanter, il vient lui jouer, pardon, avec son violon, un weinendes Lied, un lied de pleurs. Sanglotant, dit le texte, de plus en plus fort, déchirant, débordant de lamentation dans ses cordes qui me transperçaient l'âme. Et puis, tout ça va s'évanouir progressivement, mais très progressivement, dans une sorte de long solo de violon à découvert. La vision comme ça s'enfle de cet ami mort qui vient jouer du violon et s'estompe, et le désir de mort habite désormais durablement celui qui a écouté ce lied. Vous allez entendre dans l'orchestre vraiment, alors là, Electra pointe le bout de son nez. Voici le Notturno sur un poème de Richard Demel, de Richard Strauss. Andreas Schmidt en est le chanteur, l'orchestre symphonique de la radio de Berlin, direction Kurt Garben.
als müsst ich schoben, dass ich lebt. Als müsst ich fühlen, was ich lebt. Ich fühlen alles Leiden schuld und alles Lebens warme Hund. Ein Rauschen weht und grauen schwer die Luft sich rühren um mich her und wollte bebend tun ihn sehen, ihn lauschen sehen, der wartend saß bei meiner Not und fand mich.
Le Notturno de Richard Strauss sur un poème de Dehmel vient d'être chanté par Andreas Schmidt avec à ses côtés l'orchestre, les membres de l'Orchestre symphonique de la radio de Berlin sous la direction de Kurt Garben. C'est une pièce que Richard Strauss a écrite en 1899, exactement à la même époque. Fauré, lui, composait sur les lignes de Verlaine ceci.
Le ciel est par-dessus le toit. Si bleu, si calme, un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement tombe. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la fille est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là. Tu fais, ô toi que voilà, pleurant sans cesse, dis qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse.
Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Cette pièce écrite en prison à Mons par Paul Verlaine, après qu'il ait tiré sur Rimbaud, tiré un coup de pistolet sur Rimbaud, intitulé Prison, constitue l'opus 83, numéro 1, que Gabriel Fauré a écrit exactement au moment où Richard Strauss écrivait son grand nocturne pour voix de basse et orchestre. Et là, les interprètes en étaient Yann Beuron, le jeune ténor français, enfin, il est peut-être plus si jeune que ça, Yann d'ailleurs maintenant, Yann Beuron avec Billy Heidi, un très beau disque Fauré de ces deux musiciens. Et nous allons terminer cette évocation de la, comment dire, de l'échange franco-allemand entre Richard Strauss et Gabriel Fauré avec la deuxième sonate pour piano et violoncelle, celle qui porte le numéro d'opus 117, pièce du dernier Fauré par François Salk et Éric Lesage. Alors elle est en trois mouvements, un allegro, un andante. L'andante qui est la transcription d'une commande qu'avait passée l'État français d'une pièce pour orchestre d'harmonie qui était un chant funéraire écrit à la mémoire de Napoléon, puis un allegro vivo. Alors ça, c'est la pièce formidable de cette sonate, c'est un scherzo. C'est un scherzo qui a fait dire à Vincent d'Indy « Ah, que t'as de la veine de rester jeune comme ça !» Et quand il lui a dit ça, notre Fauré, qui venait de prendre sa retraite en tant que directeur du conservatoire, il en a rougi de plaisir de cette « Ah, ce que tu as de la veine de rester jeune comme ça !» Voici donc cette deuxième sonate de Fauré pour piano et violoncelle par François Salk et Éric Lesage au piano. voilà que Fauré obéit à ce vieux rabbin Nachman qui disait « il est interdit de vieillir, car voilà une œuvre bien juvénile, que tu as de la veine de rester jeune comme ça », lui avait écrit Vincent Dindy, après avoir entendu la création de cette deuxième sonate pour violoncelle et piano, que vous venez d'entendre par François Salk et Éric Lesage. Lorsque à la création, je ne me rappelle plus qui était le violoncelliste, mais je sais que le pianiste était Alfred Cortot à la Société Nationale de Musique, un beau soir de mai 1922. J'aime bien cette sonate comme illustration de Fauré comme musicien de l'eau vivante et glissante par rapport à Debussy qui serait celui de l'eau stagnante et dormante dans les jolis essais que Vladimir Yankelevitch a consacrés à ce musicien Fauré. Merci à Thibaut, Annick, Elisabeth, Véronique et Françoise qui, d'une manière ou d'une autre, sont associés à la préparation, à la mise en ligne et à la réalisation de cette émission.
France Musique.